C'est-à-dire bonsoir à tout le monde. Quand j'étais enfant, j'attendais avec beaucoup, beaucoup d'anticipation Noël. Surtout, bien sûr, pour les cadeaux. Il y avait dans notre ville, livré à la maison, un petit journal, et tous les après-midi, je l'attendais, surtout à partir du 1er novembre. Car sur la première page, il y avait chaque jour un petit encadré. Ça va. Okay. Et dans cet encadré, c'était écrit, il vous reste X jours avant Noël. Et tous les jours, je comptais le compte à rebours pour arriver à Noël. Donc aujourd'hui, ça serait, il me semble, 53 jours avant Noël. Les comptes sont bons. Et c'était bien sûr pour motiver tout le monde à aller faire les courses. Alors nous sommes aujourd'hui le 2 novembre. Et si nous voulons voir certains, comme John a dit, il nous semble qu'il nous reste, 49 jours. Non pas avant Noël, mais avant la fin du monde. Alors, une telle prédiction n'est pas nouvelle. Dans l'histoire du monde, et même dans l'histoire récente, il y a eu maintes prédictions de la fin du monde. On peut comprendre qu'il y en avait ici en Europe, par exemple, vers l'an 1000 après Jésus-Christ, avec le millénarisme, etc. Où il y en avait aussi en 1033, soi-disant 1000 ans après la résurrection de Jésus. Il y a eu beaucoup de prédictions style fin du monde au 19e siècle, surtout aux États-Unis. Par exemple, dans l'État de New York, il y avait plusieurs sectes qui sont nées presque tous en même temps. Les millérites, par exemple, ont prédit la fin du monde pour 1843, et puis encore en 1844. Les adventistes du septième jour avaient prédit la fin du monde en 1850, et puis plus tard pour 1856. Les témoins de Jéhovah, ils ont annoncé la fin du monde en 1914, encore en 1918, au moins ils ont choisi deux bonnes dates, n'est-ce pas, 1925, et la dernière, il me semble, date de 1975. Je me souviens d'un livre paru en 1988, qui s'intitulait 88 raisons pourquoi Jésus reviendra en 1988. Si vous voulez lâcher, vous pouvez trouver très bon marché d'occasion. Beaucoup de groupes, surtout en France, aux États-Unis et au Japon, ont prédit la fin du monde pour l'an 2000. Vous vous en souvenez à l'époque ? Un évangéliste américain a fait beaucoup de publicité l'année dernière, même, avec sa prédiction du 21 mai 2011, et lorsqu'on est arrivé au 22 mai, donc il a changé ça pour le 21 octobre 2011. Mais cette année, en 2012, on nous dit qu'on n'est plus sûr, on n'est plus certain, on est plus que certain que la fin du monde sera pour 2012, et comme vous avez entendu, précisément pour le 21 décembre 2012. Car on nous dit qu'il y a aujourd'hui une sorte de convergence de plusieurs éléments disparates. Laurent vous a parlé de ça hier soir. Surtout le calendrier antique des Mayas, mais aussi la collision imminente de la planète invisible, Nibiru, c'est ça, Laurent, hein? Les prédictions scientifiques calculées par les Webbots, et ce qui nous intéresse ce soir, même des prédictions cachées dans le code biblique de la Torah. Et toutes ces choses convergent sur 2012 et selon certains, le 21 décembre 2012. J'étais cet été, au mois d'août, dans le petit, pas très loin du petit village de Bougerach. Vous connaissez Bougerach, hein? Vous allez entendre parler de Bougerach bientôt. Bougerach, c'est un petit village de 189 habitants, tout petit, dans des corbières, pas très loin de Carcassonne. Et le maire du village a déjà fait appel à la gendarmerie locale, aux réservistes et même à l'armée française, car à Bougerach, il y a une montagne. Et cette montagne est censée être une porte mystérieuse vers un autre monde. Et lorsque ce monde sera détruit le 21 décembre, cette porte s'ouvrira par les extraterrestres pour emporter ceux qui sont sous la montagne dans un autre monde. Et des centaines d'étrangers ont déjà acheté des terrains et des maisons sur place, et des milliers de personnes du monde entier sont attendues pour échapper justement à ce cataclysme cosmique. Bugarach, cherchez sur Internet, vous allez le trouver. La fin du monde, il y a des gens qui prennent ça très, très au sérieux. Alors, j'aimerais commencer ce soir par faire deux remarques préliminaires. Nous savons tous, ou nous devons le savoir, que la fin de notre monde personnel pourrait toujours intervenir à n'importe quel moment. Vous savez, aucun de nous, si je regarde un petit peu, aucun de nous ici dans cette salle ce soir n'existera dans ce monde présent en 99 ici en Suisse. Sauf il y a peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être avoir le même courage que Mme Calmon, mais déjà ça je suis très d'accord. Mais quasiment nous tous nous serons déjà partis de ce monde. Et aucun de nous n'est certain d'exister dans ce monde demain. La vie est trop fragile. Et les menaces peuvent venir de l'extérieur, comme vous savez trop bien, un accident de voiture, un acte terroriste, un fou, comme au film de Batman il y a quelques semaines, dans Colorado, une ampoule dans la salle de bain, pour les amateurs de Claude François, un morceau de viande dans un restaurant, et puis voilà, votre fin du monde est arrivée. Ou ça peut venir de l'intérieur, un problème de cœur, un cancer, un AVC, et à tout âge. Donc il ne faut pas nous laisser affoler par la peur de la fin du monde, je vais même mettre les guillemets, et avec le micro j'ai du mal. La fin du monde, quand notre fin du monde est toujours, toujours, toujours si proche. Nous devons déjà gérer, réfléchir et régler notre situation avec Dieu avant notre fin individuelle. Car cette fin est certaine et inévitable. Et nous y reviendrons plus tard. À la deuxième remarque préliminaire. Je ne peux pas dire que la fin du monde ne viendra absolument pas le 21 décembre 2012. C'est possible. C'est possible que Jésus-Christ revienne ce jour-là. Ou qu'un astéroïde frappe la Terre. Ou que notre soleil s'explose en supernova et dit pouf! C'est possible. Le 21 décembre 2012. Ou le 25 décembre. Après les cadeaux. Ou le 23 décembre. C'est bien, c'est notre anniversaire de mariage, donc ça fait 37 ans, c'est bien. Ou le 11 novembre. Mais la seule personne qui connaisse cette date avec certitude, et pas comme une chance de loto, c'est Dieu lui-même. Alors ce soir, j'aimerais bien aborder avec vous juste un aspect de cette question, des prophéties sur la fin du monde. Je ne suis pas spécialiste de la civilisation maya, vous avez déjà eu Florent, je ne sais pas si... Il n'est pas spécialiste non plus, mais il connaît des spécialistes, heureusement. Ni de l'astronomie, ni de l'internet, ni de Bugarach non plus. Mais je connais un peu sur la Bible, y compris les textes d'origine en hébreu et en grec. Est-ce que la Bible elle-même, est-ce qu'elle parle vraiment de la fin du monde? Bien sûr. Est-ce que le texte biblique de la Torah, de l'Ancien Testament en hébreu, parle de la fin du monde? Oui, tout à fait. Mais est-ce que ces textes contiennent aussi des codes cachés depuis des siècles, mais des codes maintenant révélés grâce à la puissance de nos ordinateurs? Est-ce qu'il existe dans le texte en hébreu des codes bibliques, des codes secrets qui ont déjà annoncé des dizaines et des centaines d'événements dans notre monde? Et qui annonce maintenant la fin du monde pour 2012, nous allons examiner cette question. Et franchement, ce qui me gêne, ce qui me trouble beaucoup avec ces soi-disant codes bibliques, entre guillemets, c'est que la plupart d'entre nous, la plupart des gens qui voient ça à la télé ou dans les journaux, etc., nous sommes dans l'impossibilité de pouvoir l'évaluer. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour un non-spécialiste, je suppose que la plupart d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas très familier avec le texte en hébreu. Pour un non-spécialiste, comment voulez-vous vérifier, vous, si un code généré par ordinateur, soit un texte en hébreu, est vraiment authentique? On vous le montre avec des mots encadrés ou encerclés, et on vous dit, voilà, le code secret est révélé maintenant. Et vous êtes censé dire, ah oui, je vois. Mais comment est-ce que ça fonctionne, ces codes bibliques? Est-ce possible? Est-ce vrai ou faux? Donc mon but de ce soir, c'est de vous aider à mieux comprendre comment on construit, entre guillemets, un code biblique, entre guillemets, et comment ça fonctionne, entre guillemets encore, je vais utiliser beaucoup de guillemets ce soir, même si votre connaissance de l'hébreu se limite à Rabbi Jacob. Et je crois que vous comprendrez pourquoi, à mon avis, nous devons rester très, très sceptiques par rapport à ces codes bibliques. Mais je vais vous faire travailler en même temps. Vous voulez aller?
Yes.
Vous troussez les manches? Allons-y. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment des mots croisés? Des mots cachés? Le sudoku? Comment dire?
Sudoku.
Ah, voilà. Dans les journaux, dans les casques, les logiciels, dans les sites, il y en a un peu partout. Je vous en donne un. Très simple. Alors, cet exemple-là, c'est généré par hasard. Les extraits sont tirés du premier verset de la Bible, dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous trouvez, il faut travailler avec moi dans le bon ordre, ok? Est-ce que vous voyez le mot commencement?
Oui.
Où? Voilà, au commencement. Ouh, bravo. Dieu. En diagonale, ah ouais, je vois les gens qui sont forts là, ok. Dieu créa.
À gauche,
voilà. Oh, les gens qui sont forts. Les cieux. En diagonale, avec le créa, ok. Créa, les cieux et la terre.
Troisième
ligne, en partant
du haut.
Oh, bravo, en sens inverse. Chapeau, bravo. Ok. Maintenant, imaginez que vous êtes à Lyon, à l'aéroport de Saint-Exupéry, et que vous partez à Budapest. C'est juste un Airbus moyen, Air France, le vol 83. Vous avez acheté votre petit livre de mots cachés dans un kiosque juste avant d'embarquer dans l'avion. Vous trouvez votre place, vous bouclez la ceinture, vous commencez à feuilleter les pages en attendant la file de décollage, et sur une page, un peu bizarrement, vous trouvez le poste, mais vous ne trouvez pas de liste de mots à chercher, il y a juste le poste, un petit peu comme ça. Vous dites, mais c'est quand même assez curieux, et vous étiez sur le point de laisser ce poste là derrière pour chercher l'autre, peut-être sur le sport, ou que sais-je encore, quand il y a une série de lettres qui, au milieu du poste, saute aux yeux, parce que ça relève de votre destination. Vous partez où? Budapest, vous le voyez?
Oui.
Où ça?
Cinquième.
Ah! Oh, mais dis donc, c'est curieux, quand même, dans ce truc-là. Et vous êtes en train de décoller de Saint-Exupéry. Et d'un seul coup, vous remarquez, ah, mais c'est bizarre. Mais je vois aussi Saint-Exupéry. Mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? C'est quand même curieux. C'est pas mal. Et Vous pensez que c'est juste un coup de pub, peut-être? Ah, je sais que c'est un coup de pub, parce que je vois un peu plus loin même, encore un autre. C'est pas mal, comment est-ce qu'ils ont pu arranger avec le journal, etc., pour voir la publicité Air France pour ce vol Saint-Exupéry, Budapest, etc. C'est curieux. On me dit, bon, on va laisser. Mais juste avant de tourner la page, vous remarquez, surtout si vous appelez Tom, ou plutôt Thomas, c'est mon vrai nom, Thomas Blanchard, alors je vois, d'un seul coup, je vois ça, et je commence à trembler un petit peu. En disant, ça fait un peu, ça fait vraiment bizarre. Alors maintenant, ça fait bizarre. Et quand vous avez déjà relevé de l'autre côté. Oula, alors on commence vraiment à. Il y a quelque chose qui est très louche ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Tom Blanchard avec Saint-Exupéry, Budapest, Air France, qu'est-ce qu'on trouve à la fin? Air France, HEC, HEC, Air France, A, B, C, D, E, M, G, H, H, c'est 8. Ah, mais c'est 3, 8, 3. Je suis bien dans le vol Air France 83. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez autour de vous, et tout semble normal. Et vous regardez, c'est les midi moins 5, vous commencez à décoller justement dans l'avion, et puis vous remarquez à côté ça. Midi et demi. Midi moins 5. Midi et demi. Commence à faire chaud, vraiment chaud. Et enfin, vous trouvez ça. Écrasement. Midi et demi. Waouh. Bizarre. C'est le style quatrième dimension, ça s'appelle X-Files, non? Un petit peu vraiment très, très, très bizarre. Mais c'est ridicule! Tout le monde sait que c'est ridicule. Pourtant, si le texte de base était un des plus anciens du monde, celui de la Bible, et si le message est resté caché pendant des millénaires en attendant le jour où des ordinateurs puissants pouvaient vraiment l'examiner dans tous les sens pour décrypter un message caché, et si le message secret maintenant décrypté de la Bible était que la fin de notre monde était pour bientôt, en fait, pour 2012. Et si ce message dans la Bible s'accordait exactement avec les prophéties et les prédictions déjà fixées par les Mayas, de quoi donner des frissons dans le dos, n'est-ce pas? Mais si tout ça converge en même temps. Et c'est cela que certains prétendent. Le fameux code biblique ou code de la Torah est aujourd'hui présenté comme une confirmation de plus de la fin imminente de notre monde. Et c'est surtout un certain Michael Grosning, dans ce livre-là, ce petit livre-là, qui l'a popularisé dans ce livre qui s'appelle « La Bible, le code secret », publié en 1997 pour la première fois, deux autres tomes en 2003-2011. Et selon lui, le code secret de la Bible révèle, dans un texte tout à fait là, à gauche, la terre sera annihilée, détruite, dans l'année, en gauche, en bas, dans l'année 5772, qui correspond à 2012 de notre époque, dans le calendrier juif, dans les textes qui montent de là-haut, par une comète, ou un appareil pareil, un objet pareil à une étoile. Et dans d'autres textes qu'il a utilisés dans la Torah, dont il trouve que cette comète 2012, elle sera écrasée et je la réduirai en miettes. Donc il prétend, avec d'autres exemples, que la Bible, dans les codes secrets, prédise la fin du monde. Et à partir de ces textes, Grosning nous assure que les messages secrets dans la Torah, maintenant décodés, prédisent toute une série d'événements cosmiques, catastrophiques, en 2012. Alors, si on regarde cela, comment nous pouvons-nous évaluer cela? Et c'est ce que nous pouvons essayer de faire. On va peser les informations parlées, mais notre premier défi, ça sera de comprendre le fonctionnement, la méthode du code biblique selon ses adhérents. Comment est-ce qu'ils arrivent à nous présenter des choses comme ça? Dans notre puzzle de tout à l'heure, avec l'écrasement de l'avion, il s'agissait de trouver les lettres juxtaposées les unes à côté des autres dans cette matrice. Quelle que soit la direction, droite à gauche, gauche à droite, verticale, diagonale, montant, descendant, peu importe. Vous voyez, mais toutes les lettres se touchent. Mais dans le code biblique, on a recours à une technique un peu plus compliquée, un peu plus sophistiquée. Et on appelle ça une SLE, c'est-à-dire une séquence de lettres équidistantes. C'est très important. Cela veut dire qu'à partir de la première lettre choisie, et peu importe où on commence dans un texte, à partir de cette première lettre, on saute chaque fois un nombre déterminé de lettres pour ne retenir que la énième lettre chaque fois, un peu plus loin, afin de constituer le mot ou le message. Et on ne tient compte ni des espaces, ni de la ponctuation. Donc, voici deux exemples pour expliquer un peu mieux. Si nous prenons dans cette phrase les lettres en majuscule gras avec une SLE, séquence de lettres équidistantes de 3, en commençant par le P de phrase, vous voyez ce que ça nous donne. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le petit mot reste. R3E, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça nous donne le mot reste. C'est plus facile de visualiser une SLE si nous le mettons en matrice. Cette fois, nous allons écrire la phrase comme cela. Phrase, les lettres, etc. Un SLE égale 3, ça veut dire 3 colonnes. Et vous mettez les mêmes lettres en 3 colonnes. Et là, c'est plus facile à voir le mot reste. Vous comprenez comment ça marche jusqu'à là? Vous me suivez? Ok. Alors, si nous prenons par exemple un autre exemple, prenons le mot en anglais, et j'ai des amis anglais qui m'ont précisé c'est davantage un mot américain, parce que les anglais écrivent avec un S, et non pas avec un Z, mais prenons le mot américain, generalization. Et on va utiliser encore un SLE égale 3. Et on va mettre ça en 3 colonnes, généralisation en 3 colonnes. Ah, vous voyez déjà un mot codé. Vous voyez? Quoi? Qui aurait imaginé que là, il y a les nazis de le mot généralisation en anglais, en américain? Je vous donne un autre exemple, cité par un certain Randy Ingermason. Prenons l'alphabet. Et cette fois, nous allons utiliser une SLE égale 12, c'est-à-dire 12 colonnes. C'est comme si vous aviez un morceau de papier, une feuille de papier, un petit carreau. Et dans chaque carreau, vous allez écrire une lettre pendant 12 carreaux, et puis vous allez recommencer pour 12, et enfin les deux derniers qui restent. Donc nous avons une SLE égale 12. Et nous allons commencer nos recherches par la toute première lettre, le A. Donc 12, en commençant par la première lettre. Alors, ce qu'Ingermason a trouvé remarquable ici, c'est la découverte du code secret sur sa fille. Parce que sa fille s'appelle Amy. Il a dit, c'est remarquable. Mais ce qui est encore plus remarquable pour Ingermanson, c'est que Amy, elle est née le 12 janvier. 12-1. Waouh! Qui aurait jamais imaginé que dans notre alphabet, il y avait déjà un message secret codé? Bien sûr, Ingermanson, il dit que c'est complètement dur. C'est simplement, c'est une coïncidence. Et tout le monde le reconnaît. Il n'y a pas de sagesse mystérieuse dans cela. D'ailleurs, dans ce même mot, dans cette même matrice, je pense que vous pouvez trouver des notes de musique. Vous en voyez? Des notes de musique. Do, Ré. Il y a peut-être d'autres encore. Il y a le président chinois. Il est là aussi. Là, vous pouvez peut-être en trouver d'autres. Il suffit d'être un petit peu imaginatif, on peut le trouver. Alors maintenant, nous allons prendre un autre texte que vous connaissez peut-être un petit peu mieux. Vous le connaissez? Maître Cambeau, Ah oui, certains parmi vous pouvez citer par cœur. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec en fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tenait à peu près ce langage, etc., etc. Donc là, nous sommes en train d'utiliser une SLE de combien? Vous pouvez me dire? Colonnes, pour compter le nombre de colonnes. Donc là, nous avons une SLE de 8. Et on aurait pu continuer. On aurait pu continuer vers le bas avec le reste du texte. Mais on va rester avec ces 8 colonnes qui sont là. Cette ligne horizontale, ça nous suffit. Mais déjà, je vois des mots. Vous voyez des mots avec cela? Je vois par exemple, ça dépend si vous voulez rester en français ou si vous voulez passer aussi en anglais, mais là vous avez le mot net, ou ten, même à plusieurs reprises. Il y en a au moins 3, ten, net, et ten, net, là. Je vois aussi le mot an, qui remonte, ou ena, donc le, je ne sais pas si c'est l'abréviation, l'école nationale d'administration, ou d'accordéon, comme vous voulez. Il y en a encore ton ou note. Et il y a même le petit mot pu, il y en a peut-être encore d'autres. Et mais tous les mots avec les lettres connectées en directions diverses, juxtaposées, il y en a encore d'autres. Mais maintenant, nous allons augmenter nos chances avec la même matrice, exactement la même. Cette fois, nous allons sauter régulièrement des lettres en n'importe quelle direction. Et nous allons essayer de trouver quelque chose. Par exemple, dans la quatrième colonne, on commence par le T, et on va sauter deux pour arriver sur le deuxième lettre. On va sauter une lettre pour arriver sur le deuxième. T, R, vous voyez les deux autres? Tree. Et qui croise avec A, on va. Et on va faire autre chose. On va commencer là, en bas, et on va monter diagonale, mais cette fois avec 3, T, E, A, T, T, tree. Et comme vous avez remarqué, ça croise avec le mot arbre dans le texte. Wow. Est-ce que la fontaine voulait nous communiquer quelque chose? Est-ce que Jean de la Fontaine connaissait peut-être le tea tree, ça existe, tea tree, l'arbre à thé. Nos scientifiques Melaleuca, Aderfinolia, Aternifolofolia, bon, en latin c'est pas très bien, et qui est de la famille des Myrtacées, originaire d'Australie. Mais c'est un arbre qui donne vraiment une huile médicinale qui est très très efficace, il paraît, le tea tree. Mais est-ce que Jean de la Fontaine voulait nous communiquer quelque chose sur les vertus médicinales de cet arbre? Je ne crois pas, hein, franchement. Je ne crois pas du tout. Mais imaginez que vous voulez chercher toutes les possibilités avec cette SLE égale 8. À 8 colonnes, vous voulez chercher maintenant en sautant à droite, en sautant à gauche, en montant en diagonale, en descendant, en sautant 2, en sautant 3. Et essayez de trouver toutes les possibilités. Vous pouvez même chercher les mots en bouche trophédon, si vous voulez. Vous connaissez ce mot, bouche trophédon? Ça vient de deux mots. Bouche, qui veut dire un bœuf, et très fort, qui veut dire de tourner. Un bouche trophédon, c'est un mot français, mais j'ai dû le chercher dans le dictionnaire, qui veut dire qui va dans un sens, qui arrive à la fin, qui fait demi-tour et qui revient dans l'autre sens. Comme un bœuf qui arrive à finir le champ, qui fait demi-tour et qui revient sur le sillon à côté. Vous voyez? Un bouche trophédon. Et vous pouvez lire le texte un petit peu comme ça, si vous voulez. Et essayer de trouver tout ce que vous voulez. Et vous pouvez chercher pendant très longtemps avec une SLE égale 8. Mais après, vous pouvez même fabriquer des matrices, par exemple. Ça, c'est avec 8. Mais si vous voulez changer, vous pouvez changer la matrice et mettre SLE égale 9, ou même SLE égale 10, ou SLE égale 15, et continuons comme ça. Et vous y trouverez beaucoup d'autres mots codés, cachés, et si vous voulez passer en vue toutes les possibilités, dans tous les sens, avec tous les sauts, et ainsi de suite. Mais de quoi vous occuper pendant très 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 longtemps. Et vous pouvez même essayer des séries de sauts plus compliqués, par exemple. Trois vers le haut et un de côté. Trois vers le haut et un de côté. Il suffit d'être créatif. Et vous pouvez encore trouver des choses et trouver des choses. Imaginez maintenant que vous avez un logiciel qui examinera toutes les combinaisons possibles sur l'ensemble des œuvres complètes de Jean de La Fontaine. C'est dans la collection de la Fayade. Là, vous avez presque 2000 pages de texte. Et si vous voulez mettre ça maintenant dans l'ordinateur, et on ne tient compte, comme j'ai dit, ni des espaces, ni des signes de ponctuation, et on demande à l'ordinateur de prendre tout le texte de Jean de La Fontaine, les œuvres complètes, et on va arranger dans la matrice, en commençant par le SLE 3, trois colonnes très longues, et après SLE 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 15, comme on est ici. Et puis, on va continuer. On va demander à l'ordinateur de chercher tous les mots dans tous les sons, dans tous les sens, avec des SLE égales, quoi, 5000, 10000, 25000. Ça va devenir très large. Mais chaque fois, vous aurez des combinaisons différentes. Cela débordera, mais pour l'ordinateur, aucun problème. On peut toujours faire des recherches. Mais cette fois, nous allons d'abord donner à notre ordinateur une liste de mots à chercher. Et si on commence par quelque chose de très simple, on demande par exemple à l'ordinateur de trouver des notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il va les trouver. Est-ce que vous serez étonné que même avec une SLE égale 3, donc 3 longues colonnes, nous pouvons facilement trouver les 7 notes, ce serait là relativement facile, dans une direction ou l'autre, en sautant des lettres à droite et à gauche. Mais quelle conclusion est-ce que vous voulez tirer à ce moment-là de la prouesse musicale de Jean de La Fontaine? Est-ce que Jean de La Fontaine essayait de cacher des mélodies dans son texte? Bien sûr que non. Et maintenant, demandons à notre ordinateur de nous trouver des mots Obama ou le mot René avec n'importe quel SLE. Et avec n'importe quel son, dans n'importe quelle direction, mais en demandant à l'ordinateur de trouver dans la même matrice les mots gagner, ou victoire, ou win. Est-ce que vous pensez que tôt ou tard, l'ordinateur trouvera justement une combinaison de mots? Bien sûr. Ou mur et Berlin. On peut les trouver. Et on peut même donner une valeur alphanumérique à des dates, par exemple, mur, Berlin et 1989. On peut le trouver. Et si notre ordinateur arrive à nous présenter des réponses positives pour nos tests, est-ce que nous devons soupçonner que Jean de La Fontaine était un mystique prophétique, style Nostradamus, ou dire qu'il était inspiré par Dieu, ou par les forces surnaturelles, ou même par les extraterrestres? C'est ridicule. Mais c'est exactement ce que nous avons lorsque nous parlons du code biblique ou code de la Torah. Certaines manipulations numérologiques des textes de la Bible sont connues depuis très longtemps chez les Juifs pour la Torah. Ils appellent ça le Gematria, le Gematria. Mais aussi ça existe aussi pour l'islam, pour le Coran et dans d'autres religions encore. Par exemple, dans le texte hébraïque de la Torah, premier chapitre de la Genèse, les rabbins, depuis bien longtemps, ont remarqué, si vous commencez par le sixième lettre, qui est un T, et si vous sautez 50 lettres chaque fois dans la Torah, vous allez trouver les lettres T, O, R, H. On n'a pas besoin de A dans les mots. Donc, ça veut dire Torah. En sautant 50 lettres chaque fois. Mais les possibilités de recherche avancées étaient très limitées jusqu'à l'avènement de l'ordinateur. Et en 1994, trois chercheurs israéliens, Witzum, Rips et Rosenberg, c'est plus facile, ont utilisé une méthode comme celle que nous venons de voir sur le texte de la Genèse. Dans le texte hébraïque de la Genèse, il y a 78 064 lettres. Et ils avaient dressé une liste de noms des grands rabbins connus dans l'histoire du judaïsme, avec les dates soit de leur naissance, soit de leur mort. Et ils ont cherché avec l'ordinateur toutes les possibilités, et ils ont trouvé que la plupart de ces noms des rabbins étaient trouvés dans le texte, souvent en proximité de la même matrice avec les dates de naissance ou les dates de mort. Ils ont dit, c'est le hasard. Pour eux, c'était clair. Ils ont conclu que Dieu seul aurait pu encoder cette information si longtemps d'avance, dans le but de se révéler un jour lorsque l'homme il aura inventé les moyens nécessaires, c'est-à-dire les ordinateurs. Le travail de ces hommes maintenant est examiné en détail depuis plus de 18 ans, avec ceux qui sont devenus des mordus du code biblique et ceux qui la rejettent. Et curieusement, on trouve des juifs et des non-juifs, des deux côtés, les pour et les contre. Et on trouve des croyants et des non-croyants, les pour et les contre, des deux côtés. Certains juifs veulent utiliser le code pour prouver l'origine divine de la Torah. Et certains chrétiens se sont mis aussi à chercher des messages cryptés, codés, dans la Bible. Il y a même un mouvement qui prétend que le texte de l'Ancien Testament contient des messages tels que « Son nom est Jésus ». Dans un texte, par exemple, d'Ésaïe, chapitre 53, dans le texte en hébreu. Mais comprenez-moi bien, je crois que Ésaïe 53 parle de Jésus, mais non pas dans un texte crypté ou codé. Et bien sûr, les juifs qui examinent le même code, avec les mêmes textes, ils ne sont pas du tout d'accord. Alors, qui croit avec tout cela? Et c'est alors dans ce contexte qu'en 1997, Drozny, un journaliste américain qui a sorti le Bible Code, et en français, la même année, la Bible, le Code secret. Et Drozny, il n'est pas croyant, ni juif, ni chrétien. Mais en utilisant les techniques de ses chercheurs, il a poussé ses idées plus loin, en faisant beaucoup de recherches dans la Torah entière. C'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et sur la couverture que vous voyez ici, mais que vous voyez plus en détail là-bas, de son livre, il montre une matrice avec un croisement de deux lignes de texte en hébreu. La ligne horizontale est un texte cité directement du texte normal dans le livre de Deutéronome, et qui parle du meurtrier qui commettra un meurtre. Mais selon Drozny, il trouve dans ce texte juxtaposé verticalement une prophétie qui, selon Drozny, annonce l'assassinat de Yitzhak Rabin. Parce que si vous lisez l'hébreu en descendant verticalement, vous avez le nom en hébreu de Yitzhak Rabin. Et Drozny dit qu'il avait même essayé d'avertir le premier ministre israélien en septembre 1994 de ce meurtre imminent. Et Rabin fut assassiné le 4 novembre 1995. Alors pour Drozny, c'était la confirmation que le code biblique contenait des messages, des personnages, des événements du passé, prévus dans le texte. Il a fait d'autres recherches dans ses livres, vous pouvez trouver Shakespeare, Macbeth, Hamlet, pas Omelette, mais Hamlet, Avion, les frères Wright, Edison et l'ampoule électrique, Einstein, Newton, gravité, Nazi et Hitler, Holocauste, Watergate, Homme sur la Lune, le président Kennedy, Dallas, le comète Schumacher, Levy et Jupiter et bien d'autres choses. Dans son deuxième livre, qui est sorti, remarquez bien, en 2003, il dit que le code secret de la Bible parle aussi du 11 septembre 2001, les Twin Towers, Ben Laden, etc. Mais il prétend aussi que le code nous annonce l'avenir, au moins pour nous avertir de l'avenir. Drozny, il affirme, à la page 29, la Bible est construite comme de gigantesques mots croisés. Elle comporte, du début à la fin, des mots codés qui nous racontent une histoire cachée. Sauter des intervalles X, d'autres intervalles X, et encore des intervalles X, et le message secret apparaît. S'entrecroisant tout au long du texte connu de la Bible dans son intégralité, caché dans le texte hébreu de l'Ancien Testament se trouve un réseau complexe de mots et de phrases, une nouvelle révélation. Il y a une Bible sous la Bible. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est un programme d'ordinateur. Ah. Au moins, c'est ce qu'il prétend. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser du code de la Bible et du code de la Bible et la fin du monde? Soit le code est vrai, soit il est faux. Si le code existe vraiment, caché sous les textes anciens depuis des millénaires, en attendant le jour aujourd'hui où notre technologie pourrait enfin nous aider, il faut demander, mais qui en est l'auteur? Il y a tout un mouvement juif, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est convaincu que le code est l'œuvre de Dieu lui-même. Et certains chrétiens prétendent que le code révèle la signature de Dieu. Il y a même un livre avec ce titre. Bien sûr, Drosnin lui-même croit que le code est authentique. Mais lui, il semble convaincu que ce sont des extraterrestres voyageant dans l'espace et peut-être même dans le temps qui ont amené le code ainsi que notre code ADN sur notre planète il y a bien longtemps. C'est son explication à lui. Mais d'autres spécialistes maintiennent que le code n'existe pas, qu'il est une fraude, bien intentionnée ou non. Il n'est que le fruit du hasard, dû à l'énorme multiplicité des combinaisons possibles et à la capacité de recherche par ordinateur presque infiniment variable. Donner un texte à l'ordinateur avec une liste de mots à trouver, et on finira toujours par trouver ce qu'on recherche. Et parmi ceux qui rejettent l'existence du code, il y a des scientifiques, surtout des physiciens et des mathématiciens. Il y a des juifs pratiquants qui rejettent, des chrétiens engagés aussi bien que les athées qui rejettent, et les spécialistes de langue biblique. Ils ont des raisons très fortes et à mon avis très bonnes pour être sceptiques et de rejeter ces idées du code biblique. Par exemple, les défenseurs du code biblique, ceux qui y croient, ils affirment que le texte hébraïque de l'Ancien Testament, au moins de la Torah, c'est-à-dire les cinq premières lettres de la Bible, est figé, fixe. Drosnin, il est catégorique. Il dit, le texte de l'Ancien Testament est établi depuis au moins un millier d'années. Pas une lettre n'en a changé durant ce temps-là. Pas une lettre. Alors, c'est une question très importante, car enlever ou ajouter une seule lettre dans une matrice comme cela, et vous imaginez ce qui se passe? Ça bouge. Et si notre matrice bouge, nos mots encodés disparaissent. Il faudra tout recommencer. Par exemple, Maître Corbeau. Mais il y a bien longtemps, au lieu d'écrire « maître » avec un circonflexe sur le « i », on écrivait comment? Avec un « s ». Si vous ajoutez le « s », vous voyez ce qui se passe à toute la matrice à ce moment-là. Il n'y a rien qui marche. Il faut tout recommencer. Donc, Drosnin, il est obligé de dire que le texte biblique n'a jamais changé. Est-ce vrai ou non? Il dit que toutes les Bibles dans les lois actuellement existantes sont concordantes lettre pour lettre. Le problème, c'est que c'est complètement faux. Parmi tous les manuscrits des textes de l'Ancien Testament que nous possédons, il n'y en a pas deux qui ont exactement le même nombre de consonnes. Le texte hébraïque est très, très, très stable. Je veux vous rassurer. Avec une fidélité de transmission légendaire parmi les juifs, mais absolument identique partout, non, c'est pas vrai, c'est tout simplement, c'est pas vrai. Dans la Torah, dans les cinq premiers livres de la Bible, dans l'édition Kohen, que Drosnin a utilisée, que les chercheurs israéliens ont utilisée, il y a 304 805 consonnes, lettres. Dans une autre édition bien utilisée de Ginsberg, il y a deux lettres de plus. Bon, c'est pas grand-chose, mais il suffit d'une lettre pour que tout change. Et dans le texte que j'utilise le plus souvent ici, le Biblia Hebraica Cadencia, le VHS, on appelle, que la plupart utilisent aujourd'hui, il y a 45 lettres de plus. Il dit que toutes les Bibles en hébreu actuellement existantes sont comprenant lettre pour lettre. C'est faux. Mais la vaste majorité de ces différences de nombre de lettres ne concernent que de tout petits changements dans l'orthographe. Surtout pour les noms propres. Je vous demande, comment on écrit le nom Sarah? Sarah, ça s'écrit comment? Bah, j'entends des divergences. Là. Est-ce qu'il y a un H à la fin ou non? Bah, ça dépend. Et il suffit d'une différence comme ça qu'on trouve dans le texte biblique et tout change. Philippe, comment est-ce que vous écrivez Philippe? Avec un L, avec deux L, avec deux P à la fin, avec un E à la fin. Il y a plusieurs manières d'écrire le même nom. Et ça change. Ça ne change rien du tout dans le sens. Et même en français, si vous avez deux manuscrits de Molière, des époques différentes. Est-ce qu'il faut lire elle était ou est-ce qu'il faut lire elle histoire? Elle était, vous avez 5 lettres. Elle histoire, vous en avez 6. Et tout change. Si vous avez une matrice qui est construite avec 5, et puis vous ajoutez une lettre en plus, ben maintenant tout a bougé. Vous voyez le problème? La matrice sera tout à fait différente. De plus, si vous avez l'occasion d'examiner les livres de Drosnin, vous verrez que ces matrices en hébreu contiennent souvent des tirets et des astérisques. Je lis trop les BD, maintenant je n'arrive plus bien à lire astérisques. Voilà, vous comprenez. Par exemple, dans le texte sur Rabin, que Yitzhak Rabin sera assassiné, il y a souvent des tirets et des astérisques. Ils ne sont surtout pas dans le texte en hébreu. Ça n'existe pas dans le texte en hébreu. Mais regardez, par exemple. Si vous regardez ici, là, il y a des astérisques. Si vous regardez là, il y a un tiret. Si vous regardez là, il y a un tiret. Si vous regardez là, il y a un tiret. Et il y en a plein un peu partout. Là, et là encore, une petite étoile, etc. Et si vous les enlevez, tout le message qu'on fait s'effrite. Et comme avec Maître Corbeau tout à l'heure, si vous avez le texte comme ça, vous ajoutez un tout petit tiret, là, tout le reste bouge. Il est impossible d'utiliser le texte comme on l'utilisait avant. Et Drosnin ne mentionne pas du tout dans ses livres ses tirets, ses étoiles. Il ne les explique pas non plus. Et vous, en tant que lecteur non averti, vous regardez ça, vous dites, « Ah, mais dis donc, il y a une prophétie, il y a vraiment quelque chose de mystérieux. » Mais non, mais c'est complètement bidon. On peut toujours trouver ce qu'on cherche. Garde à nous. Il y a encore d'autres astuces pour vous aider à trouver ce que vous cherchez. Nous avons travaillé, par exemple, avec La Fontaine, avec une SLE égale 8. Vous vous souvenez, tout à l'heure? Ou de 15. Croyez-vous que si nous voulons utiliser tout le texte des œuvres complètes de La Fontaine, en passant l'ordinateur, et si nous voulons trouver par exemple l'ami de Jean de La Fontaine, il y avait un ami bien connu qui s'appelait Nicolas Fouquet, c'est lui qui a fait construire le château de Vaux-le-Vicomte dans la région parisienne. Nicolas Fouquet, si vous voulez, vous pensez qu'on peut trouver le nom de Fouquet dans les œuvres de La Fontaine? On demande à l'ordinateur de chercher. Il commence à chercher. Il fait des SLE 3, il fait des SLE 4, il fait des SLE 5, jusqu'à ce qu'il trouve le nom de Nicolas Fouquet. Peut-être il va monter à combien? Voulez-vous imaginer? Vous trouvez Fouquet à 25? SLE 25? 25 de colonnes? 80 colonnes? 200 colonnes? 457 colonnes? Vous voulez savoir quel SLE Drosnin a dû utiliser pour trouver cette prophétie, ce Yitzhak Rabin? Là, sur la couverture de son livre, il y a 18 colonnes. Là, il y en a 38, je pense que je les ai comptées. Mais ce n'est pas le tout. Là, il a utilisé une SME égale 4772. Oui, bien sûr, le logiciel a pu trouver aligner les consonnes verticalement. Mais après combien d'essais? Après combien d'essais? Et en parlant des consonnes, nous avons une autre astuce pour trouver ce que nous cherchons. Car, je ne sais pas si vous savez, l'hébreu ne s'écrit normalement qu'avec les consonnes et non pas avec les voyelles. Est-ce que quelqu'un connaît ce texte-là? À part deux, trois ici. Qu'est-ce qu'il y a? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est la grande confession de foi israélite. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça, c'est le texte, mais vous voyez, le texte, normalement, dans le texte, dans la Torah, s'écrit sans les voyelles. Ce que vous voyez là, les petits points, les tirets et les autres, tout ça, ce sont des voyelles et des accents. Mais là, en bas, vous n'avez que les consonnes. C'est-à-dire, le texte en hébreu s'écrit sans les voyelles. Et les Juifs, ils arrivent très très bien à communiquer comme cela. Allez sur Google Israël sur Internet, vous allez trouver toutes les informations, les actualités, tout le reste, avec les consonnes. Vous pouvez vérifier ce soir chez vous si vous voulez. Ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, nos jeunes aujourd'hui, ils ont la même capacité, n'est-ce pas, avec des SMS, sans moyenne, et puis ils arrivent à bien parler entre eux. Hein. Exactement la même chose. Mais cela veut dire, par exemple, en hébreu, c'est plus facile à trouver un mot. Car, par exemple, si nous voulons chercher dans Maître Corbeau, est-ce que la fontaine. Est-ce qu'il avait caché le mot pinot, comme c'est le pinot de Charente, un petit impératif. Si vous voulez, est-ce qu'il a cherché le mot pinot, est-ce qu'il a encodé le mot pinot dans son texte? Il suffit de. Vous n'avez pas besoin de trouver P-I-N-E-A-U, il suffit de trouver P-N. Et là, vous l'avez. Donc c'est beaucoup plus facile en hébreu, vous voyez? Parce que là, vous avez pinot, là, dans le texte de La Fontaine, avec cette S-L-E égale 8. C'est facile. Mais vous pouvez aussi prétendre que le texte PN, ça représente pinot, mais vous pouvez aussi dire que ça représente pain, ou pont, ou peine, ou pion, ou pont, ou encore. Vous voyez, avec deux lettres, vous pouvez faire dire tout ce que vous voulez. Ou si vous voulez prendre ce mot-là, qui veut dire normalement, peut-être terre, c'est peut-être terre, mais ça peut peut-être dire tiroir, ou traire, je viens de la savoir, donc on dit traire, tarir, torero, et encore, non, pas encore. Donc vous avez la marge pour trouver tout ce que vous voulez. Alors les chercheurs israéliens, Rosnin et les autres amateurs du code biblique, ils affirment que les codes bibliques sont uniques avec le texte de la Torah, de l'Ancien Testament. Rosnin, il affirme par exemple dans son livre qu'il a essayé d'appliquer ces mêmes méthodes sur d'autres textes, par exemple le texte de la tradition hébreu de crime et châtiment de Dostoïevski, ou guerre et paix en hébreu de Tolstoï, mais sans succès. Rosnin, il affirme que la Bible est unique. Mais d'autres critiques ont relevé le défi. Là, deux hommes en particulier, Barbanton et Vanden McKay, ils ont répété l'expérience des chercheurs sur le texte hébreu de Guerre et la paix, et ils ont trouvé quand même beaucoup de succès. Et McKay, il a poussé un peu plus loin. Ça, c'est trop loin pour voir, ça je sais très bien. Mais là, McKay, il a pris un texte de l'édition anglaise de Moby Dick. Vous connaissez Moby Dick, la baleine blanche? C'est un texte en anglais. Et là, ici, il a trouvé, avec la ligne qui est soulignée, mortal in these jaws of death. Mortel dans ces dents de la mort. Et là, il a trouvé toute une série de recommandements. Et vous savez ce qu'il a trouvé? Si vous regardez bien, il a trouvé Lady Diana. Ah, et on trouve Diana aussi de l'autre côté. Mais ce n'est pas seulement là qu'il a trouvé. Il a trouvé dans une autre direction avec une losange royale, de la maison royale, et le nom a commencé avec le W de l'autre côté. Il a trouvé de Wales, pays de Galles. Et en plus, il a trouvé 4 fois dans le texte le nom de Dodi. Vous connaissez Dodi, son amant? Dodi, qui est là. Dodi. Au moins 4 fois dans le texte, il a trouvé Dodi. Qui était le chauffeur ce soir? Quelqu'un se souvient? Henri Paul. Henri Paul. Qui est écrit là. Waouh! Et même de l'autre côté, j'ai trouvé cette famille, je ne l'ai pas remarqué avant. Il y avait même le mot skid et roll, dératage sur la route. Dans mon mythique, 1851, tout ça c'était prévu par Herman Melville lorsqu'il écrit mon mythique en 1851. Mais qui aurait jamais imaginé? Mais bien sûr, c'est complètement absurde. C'est complètement ridicule. Dans le même texte de Moby Dick, ce même chercheur McKay, et non pas sans un peu d'humour noir, il a trouvé une autre prophétie, avec ce texte encadré, « Him to have been killed », celui qui aurait dû être tué, ou qui va être tué. Et qui va être tué selon cette prophétie? Mais si vous regardez avec le M là, et qui monte, c'est M. Drosnin, c'est Michael Drosnin lui-même, l'auteur du code secret. Il sera tué. Et il sera tué comment? Ben, il sera tué probablement dans la ville de Cairo, qui descend par là, ou dans la ville d'Athènes, qui descend de l'autre côté. Il sera tué par un clou, qui parle d'un nail, N-A-I-L, par là. Et pourquoi? Parce qu'il est un menteur. Un liar, L-A-L-I-A-R, liar, de l'autre côté, par rapport à la Torah, T-O-R-A-H. Grand arcane, Moby Dick, 1851. McKay, il a dû utiliser une SLE égale 25936. Mais, bon, il l'a trouvé. Oui. En fait, vous aussi, si vous voulez dépenser votre argent, vous pouvez acheter un des nombreux logiciels bibliques qui existent sur le marché aujourd'hui pour trouver vos propres messages secrets de la Bible. Code Finder, Keys to the Bible, Bible Code, vous pouvez acheter et vous pouvez mettre votre texte biblique ou n'importe quel texte si vous voulez. Et vous pouvez chercher votre propre message biblique. Et non, je ne présente pas, ça existe, vraiment. Mais c'est une perte d'argent. Et avec quoi, je crois que nous avons une confirmation de plus que le soi-disant code biblique est tout simplement un phénomène intéressant. Ça nous montre les possibilités de l'informatique moderne de trouver n'importe quoi, n'importe où. Ingemanson, il affirme qu'on pouvait avoir les mêmes résultats avec un roman moderne ou avec l'annuaire téléphonique de Tel Aviv. Et vous avez les mêmes résultats. Et je crois qu'il a raison. Alors, mes amis, si le seul danger des codes bibliques était de nous tromper sur les dates, sur les comètes, sur les guerres à venir, nous ne risquerions peut-être pas grand-chose personnellement. Mais il y a un autre danger beaucoup plus grave. Si vous recevez un mail de votre fiancé, de votre époux, de votre épouse, ou mieux, une lettre. Il y en a qui se souviennent des lettres papier. Ça existe toujours. Si vous recevez une lettre de quelqu'un qui vous est cher, My dearest sweetheart, Tom, celui-ci qui a écrit. You are the one who sent me. Oh là. Oh my God, your loving wife. Est-ce que vous pouvez prendre ça et commencer à l'examiner en sautant des lettres, tous les 10 lettres, en faisant matrice de SLE 8, 9, 10, 12, et en faisant toutes sortes de recherches? Mais c'est complètement ridicule! Ou un autre. L'analyse médicale, laboratoire, c'est déjà assez difficile à comprendre tel que c'est écrit, mais là, voulez-vous commencer à sauter des lettres pour connaître les messages encryptés, codés? Mais bien sûr que non. Déjà, vous avez du mal. Mais là, vous voulez voir, en espérant trouver une bonne nouvelle, ou peut-être une analyse que votre cas est très grave. Vous voulez savoir maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Et je crois que le plus bon danger des codes bibliques est justement ici. Cela peut vous pousser à considérer la Bible uniquement comme une sorte de gigantesque pile de lettres Scrabble. Et vous pouvez chercher là-dedans pour construire un message. Et c'est pas ça du tout. Mais vous risquez de passer à côté du vrai message de la Bible, qui est à la fois une analyse lucide de votre état spirituel, pour le bien, aussi pour le mal, si c'est grave, et qui est à la fois une lettre d'amour de quelqu'un qui vous aime. Oui, il y aura une fin pour ce pauvre monde, ou plutôt un jugement suivi d'un renouvellement fantastique. Et la Bible est claire que nous allons tous comparaître un jour devant Jésus-Christ. Cela peut être lors de son retour physique sur terre. Et ceci est clairement annoncé dans les Écritures, même si nous n'en connaissons pas la date. Et plus probablement pour nous tous, ce sera au moment de notre mort physique. Mais notre comparution, notre rendez-vous avec notre Créateur, individuellement, chacun d'entre nous, est déjà fixe et incontournable. Le seul élément qui est encore variable, c'est l'état de votre relation avec lui. Eh oui, il y a un message dans la Bible, mais vous n'avez pas besoin du SLE de 4772. Vous pouvez lire les textes tout simplement avec une SLE de 1. C'est-à-dire directement. Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On parlait d'Ésaïe 53. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et enfin, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Merci, Michel, et à tout à l'heure.
Vous avez dit avant que le texte biblique devait se prendre, et il doit se prendre au premier degré, c'est-à-dire lire le texte. Ce ne serait pas une manière justement que certaines personnes trouvent de détourner justement ça en essayant de trouver d'autres messages et pour ne pas lire, pour ne pas faire face à la réalité du texte.
Oui, mais très souvent, si on ne veut pas affronter le texte directement, on trouve toujours moyen pour le détourner. Donc, mais je pense que dans tout système de communication, l'idéal ou le but, c'est de pouvoir, comme même maintenant, j'essaie de comprendre ta question, tu essaies de comprendre ma réponse. Communication, ça, c'est l'idée de faire passer l'idée que j'ai en tête directement à la tête aussi. Donc, lorsqu'on est confronté à un texte, si on ne peut pas accepter le message direct de ce texte, c'est souvent parce qu'on ne veut pas l'entendre de cette manière-là. Et malheureusement, en tant que pasteur, j'ai souvent affaire avec des gens qui fassent un texte clair. Oui, mais ouais, on trouve toujours un moyen de pouvoir le détourner. Et si je suis honnête avec moi-même, ça m'est arrivé aussi. Oh, oui, c'est pas si grave que oui, mais ça ne veut pas dire que. Et ça, c'est la tendance pécheresse que nous avons peut-être tous en nous, parfois. Mon grand désir de ce soir, c'est que lorsque vous voyez des choses comme cela, à la télé, dans les revues, dans la presse, code biblique caché, maintenant dévoilé, que vous puissiez dire, ah, maintenant, je sais comment ça fonctionne, c'est un truc de prestidigitateur, on avait toujours à trouver ce qu'on veut chercher, qu'on veut mettre là-dessus. Et ne pas vous laisser affoler par quoi que ce soit. Le texte biblique est assez sérieux, assez pertinent et surtout clair pour lui-même.
Alors moi, j'ai peut-être une question. C'est quand même intéressant, tu es un prof de hébreu, Ancien Testament, c'est quand même assez unique, d'accord? Tu peux nous expliquer comment tu es devenu intéressé déjà à la Bible, mais ensuite, pourquoi tu es devenu spécialiste un petit peu du hébreu? C'est assez unique et je trouve que ce serait intéressant d'entendre ton histoire un petit peu.
J'ai grandi dans un contexte catholique, mais très ancien. Je m'appelle Blanchard, vous voyez, c'est pas tout à fait typiquement américain, c'est plutôt français. Mes ancêtres des Français sont passés par le Québec. Et mes grands-parents parlaient québécois, parce que j'étais plus jeune. Je ne parle plus de français là-bas.
C'est du coup.
Ouais, c'est mieux. Je suis avec maman. Et à l'époque, justement, j'étais parachutiste. Mais à l'époque, je n'avais jamais vu, à l'âge de 18 ans, je n'avais jamais vu une Bible de ma vie. Alors, pour mes étudiants, vous allez entendre des histoires la semaine prochaine. À l'âge de 18 ans, un jour, j'étais devant la maison. J'avais sauté le matin, j'étais en train de refaire mon parachute. Et ma voisine, nous sommes dans les années 70, 70 pour les Suisses, c'était à l'époque des hippies et aussi à l'époque des Jesus People. Et il y avait beaucoup de Jesus People qui se sont convertis. Et ma voisine, une jeune fille un peu plus âgée que moi, une ancienne droguée, s'était convertie, elle est devenue une Jesus People, Jesus Freak, on les appelait à l'époque. Elle est venue me voir, je connaissais à peine, j'étais en train de replier mon parachute, elle dit, mais Tom, est-ce que je peux te parler? Je dis, oui, bien sûr, si tu veux. Si tu meurs demain, touche pas, hein, mon parachute, je reste là-bas, alors ta question, si tu meurs demain, c'est que tu sais plus. Hein. Elle m'a parlé de la Bible, elle m'a parlé de Jésus-Christ, elle m'a parlé de la vie éternelle, et elle avait ce gros livre, je dis, c'est quoi ce livre? Elle a dit, c'est la Bible. Je dis, c'est quoi la Bible? J'avais 18 ans, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai aucune idée de ma vie ce que c'est la Bible. Elle a dit, c'est la parole de Dieu. C'était un missel? Non, j'avais un missel catholique, mais je n'avais pas de Bible, je ne connaissais pas. Et puis, j'étais fasciné, je ne suis pas converti, mais je suis rentré à la maison après, j'ai demandé, maman, est-ce que nous avons une Bible chez nous? Bonne famille catholique, française, québécoise, à l'époque, bon, faut mettre ça, à l'époque. Ma mère m'a répondu, ou surtout pas. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit textuellement, mais la Bible, c'est le livre le plus sale que tu pourrais jamais lire. Parce qu'à l'époque, c'est ça ce qu'on disait, surtout dans le contexte québécois, on disait aux gens de l'Église pour les empêcher de lire la Bible. Ça a changé depuis. Mais à l'époque, les catholiques n'avaient pas le droit, au moins dans notre milieu, de lire la Bible. Et pour éviter, on nous dit, comme ça, c'est un livre très sale. Alors, dire à un jeune homme de 18 ans, c'est le livre le plus sale que tu pourrais jamais lire, je voulais me conquérir une Bible tout de suite. Alors, je suis allé à la librairie près de l'université, j'étais à l'université, et j'ai trouvé un Holy Bible, parce qu'elle avait un Holy Bible, je voulais un Holy Bible, je ne voulais pas manquer quelque chose. Et je commençais à lire ce livre, et j'étais étonné de voir que, mais dis donc, c'est pas ça du tout, et ça parle d'autre chose. Il y a quelques histoires que j'avais entendues dans le catéchisme et dans un contexte, et je n'ai pas de vie. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à lire la Bible pour la première fois, et quelques mois après, le Seigneur a envoyé deux chrétiens qui faisaient le tour des campus, et puis je me suis converti, en 72. Et après, j'ai fait mes études à la faculté, mais il y a quelque chose avec l'Ancien Testament qui me fascinait. J'avais déjà fait un petit peu de grec à l'université, grec classique, mais l'hébreu, je trouvais c'est tellement beau, avec les caractères qui se lient dans l'autre sens et tout. C'est tellement ésotérique, et je pense que c'est ce côté-là qui m'a fasciné. Et puis, en travaillant davantage dans la Bible, je me suis rendu compte que beaucoup de mes collègues se concentraient sur les textes du Nouveau Testament. Mais en lisant la Bible pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse dans l'Ancien Testament. Et je trouvais que très peu de mes collègues, quand j'ai fait ma formation à la faculté, très peu s'intéressaient dans les textes de l'Ancien Testament. Alors j'ai dit, Seigneur, si tu permets, je voudrais bien consacrer ma vie à mieux creuser dans les textes de l'Ancien Testament. Dans tout, je lis le Nouveau Testament aussi, parce que je crois que c'est accompli en Christ. Mais je voulais vraiment saisir le cœur de Dieu dans les textes de l'Ancien Testament. C'est comme ça que ça a commencé un peu plus. Et ça fait 30 ans.
Je voulais juste savoir, donc, vous avez dit qu'il y avait donc des chrétiens qui étaient partisans donc, de cette thèse, donc des codes bibliques cachés. Donc, ces chrétiens qui croient bien évidemment en l'Ancien Testament et au Nouveau. Donc, comment est-ce qu'ils concilient cette idée de savoir qu'il y a des dates qui seraient cachées et puis les versets qui disent que personne n'est au courant du jour où le Seigneur reviendra?
Bon, à mon avis, on ne peut pas les réconcilier. Parce que le texte biblique est très clair, avec un SLE de 1, que personne ne connaît le jour ni l'heure du retour du Seigneur Jésus. Alors ceux qui prétendent que c'était tel jour, telle année, comme ce monsieur l'année dernière aux États-Unis, donc le 21 octobre, on doit dire, dès qu'on commence à faire cela, si jamais ça tombe dessus, c'est complètement la loto. Hein. C'est pas parce qu'il y a un message codé dans le texte biblique. Donc là, il faut dire, il faut se méfier lorsque quelqu'un commence à prédire avec des dates, des choses précises. Il faut dire, je m'en méfie énormément. C'est la même chose avec certaines prédictions. On voit certains éléments dans ce monde actuel, on dit, ah mais ça, c'est sûr et certain, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Dans Ézéchiel ou dans un autre texte, mes étudiants me posent toujours cette question. Moi, je dis souvent, non. Je dis cela parce que si vous lisez un petit peu l'histoire de l'Église, dans presque chaque époque, il y avait des chrétiens qui voyaient des éléments qu'ils étaient en train de vivre à l'époque, et c'était sûr que ce qu'on a vu là, c'était l'accomplissement de ce texte biblique. Hitler, c'est l'Antichrist, c'est clair. Bon, il était animé par l'esprit d'Antichrist, là, il n'y a pas de doute, mais est-ce qu'il était l'Antichrist à majuscule? Apparemment pas. Napoléon, George Bush, Reagan, dans l'histoire du christianisme, presque à chaque époque, on croyait qu'une telle prophétie se réalise maintenant. Ben, je pense qu'on peut voir certaines choses, et la Bible est faite, il faut toujours rester vigilant et rester prêt. Mais lorsque un chrétien commence à dire « Je suis sûr que cet événement-là, dans les actualités, c'est l'accomplissement de cette prophétie », je veux dire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. J'aimerais bien avoir un peu plus d'humilité, s'il vous plaît. C'est ma position personnelle là-dessus.
Mais écoutez, peut-être qu'on va arrêter là. Tom, encore merci beaucoup. Je crois qu'on va l'applaudir très très fort pour cette vidéo. Florent Marat était notre orateur hier soir et là aussi. J'aimerais, parce que je sais que vous êtes deux des prédicateurs et vous enregistrez vos sermons, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui aimeraient vous écouter. Florent, toi, si les gens voulaient télécharger tes messages, est-ce que tu peux leur dire comment faire?
Il faut se rendre, il y a deux sites qui les gardent. Il y a le site de notre église qui s'intitule Grâce, comme le terme grâce-lyon, parce que c'est là où je suis, .org. Donc grâce-lyon.org, et il y a un autre site qui les propose sous forme audio et sous forme écrite, qui s'intitule unpoissondansle.net. Un poisson dans le net. unpoissondansle.net. Merci.
Merci, et Tom, tu peux aussi nous dire où...
Ah, c'est sur le site de église-alberville.net. Donc là, il y a le site de l'église avec les messages.
Écoutez, si vous êtes intéressé, vous nous écrivez et nous on vous envoie les sites de ces deux messieurs qui vraiment, on a je crois que goûté une petite partie de ce qu'ils peuvent nous apprendre, et je sais qu'il y a des gens qui profitent au maximum déjà de vos enseignements et c'est vraiment, vraiment super, d'accord? Voilà, mais écoutez, alors avec ça la soirée se termine. Nous...